Arnaud Dumas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la gestion de la banque Neuflize OBC. On va parler avec vous de stratégie d'investissement, de perspective dans une période pas forcément évidente, même si on fait un petit retour en arrière sur l'année 2012, hein, pour les investisseurs. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de classes d'actifs progresser. Donc, vous pouvez dire, si on n'était pas investi, qu'on n'a pas eu cette performance-là. Comment vous abordez-vous ce début d'année 2013?
On l'aborde très simplement d'abord dans la continuité de l'année 2012, qui effectivement a été, vous le rappelez, excellente sur des classes d'actifs, avec des performances très très bonnes, en particulier sur les obligations, que ce soit les emprunts d'État ou les emprunts du secteur privé. Très bonne aussi pour les actions. Le rythme a été très impressionnant. Sur les actions, on est sur une progression en rythme annuel de plus de 25%, c'est quand même beaucoup. Pour l'instant, on est encore un petit peu dans la lancée de cette progression de 2012, et c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours investis dans les portefeuilles en actions, mais je pense nous aurons l'occasion d'en reparler.
Oui, justement, ça a fait partie des questions de ce début d'année. On a vu cette performance de la bourse et puis en même temps, on avait des données macroéconomiques, notamment dans la zone euro, qui restent engluées dans une faible croissance, voire effectivement une décroissance. Donc on a cet environnement macroéconomique défavorable et puis ces boursiers qui ont l'air euphoriques.
Alors c'est vrai que d'une part, bon, de manière classique, ce n'est pas qu'une boutade, mais les boursiers ont pour but d'anticiper ce qui peut se passer sur le plan de la macroéconomie. Mais surtout, on a eu un démarrage en trois temps, en quelque sorte, pour l'année 2012, puisque c'est encore une fois le début du mouvement dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Le premier temps, ça a été un mouvement assez classique de rebond après une chute excessive des marchés. Ça a commencé dès le début du mois de juin. Ce mouvement, il a été conforté dans un deuxième temps par les propos de M. Draghi, mais conforté. La hausse avait déjà débuté, et il y a eu une accélération de cette hausse à la fin de l'année 2012, probablement en partie dû au fait que pas mal d'investisseurs étaient sous-investis sur les marchés financiers. Au-delà de ça, si on essaie de regarder un peu les fondamentaux, on pense qu'effectivement, le discours tenu par M. Draghi a permis de conforter les investisseurs et surtout, en quelque sorte, de mettre un peu de côté, pas d'occulter définitivement, mais de mettre un peu de côté la problématique de la crise de la dette souveraine. Et donc, du coup, les investisseurs se concentrent, comme d'habitude, comme c'est leur métier, sur les fondamentaux macroéconomiques et les fondamentaux des entreprises. Et de ce côté-là, même si les choses ne sont pas fantastiques, je suis d'accord sur la zone euro, l'inflexion, le momentum, il y a une certaine dynamique qui se met en place et qui fait qu'effectivement, on a été conforté dans notre volonté de détenir des actions dans les portefeuilles.
Alors les actions européennes, qui, il est vrai aussi, hein, avaient beaucoup moins performé que les actions européennes, ça a pu être un argument supplémentaire pour aller chercher ces actions européennes.
Que les actions américaines. Oui, tout à fait. Oui. Alors effectivement, c'est aussi il y a cet argument de. Alors on regarde le parcours boursier. C'est vrai que si on regarde les choses un peu froidement, les Américains ne sont jamais très éloignés finalement quand on rebondit fortement des plus hauts historiques qu'ils avaient atteints, par exemple en 2000 dans la constitution de la bulle Internet de la fin des années 90. Tandis qu'en Europe, si on prend l'indice français, on sait tous qu'on est à peu près à la moitié du niveau qu'on avait atteint à ce moment-là. Donc certes, de ce point de vue-là, il y a encore du chemin à faire. Et c'est vrai que le décrochage s'est fait véritablement dans la crise de la dette souveraine. On était à la remorque des États-Unis, toujours accroché au marché américain en tendance, mais en niveau, on voit bien qu'on a décroché avec cette crise des dettes souveraines. Donc c'est vrai que c'est le moment, probablement, selon nous, c'est un bon moment pour privilégier un petit peu les actions européennes.
Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va avoir, je dirais, un marché tranquille hein, dans les prochains mois. Comment on aborde ces marchés, justement, en tant qu'investisseur dans ces périodes-là? Parce qu'on se dit qu'on va peut-être encore avoir les lunettes roses pour un certain temps, mais peut-être avec à nouveau des crises qui ne sont pas forcément encore aujourd'hui précises, on va avoir à nouveau des peurs sur ces marchés.
Tout à fait. Alors, les choses ne sont pas réglées définitivement. La crise de la dette souveraine est toujours là. C'est une crise qui est assez dangereuse parce que c'est une crise politique. Donc, le politique, c'est encore plus volatile que l'économique. C'est un peu binaire. De temps en temps, c'est de temps en temps tout noir et tout à coup tout blanc et on rebascule dans le tout noir. Je rappellerai juste l'épisode du référendum en Grèce avec M. Papandréou à la fin de l'année 2011, où on changeait vraiment radicalement d'inflexion du jour au lendemain. Donc, il y a toujours cette problématique qui est là. Encore une fois, la crise n'est pas définitivement occultée. L'image que nous aimons bien prendre, c'est le fait que l'épée de Damoclès est toujours là, on l'a juste réaccrochée un peu plus solidement, mais elle est toujours au-dessus de notre tête. Donc on peut avoir, c'est vrai, en 2013, en particulier avec des événements politiques comme les élections en Italie ou les élections en Allemagne, ou aussi, pourquoi pas, avec des résultats sur le plan budgétaire qui seraient moins bons que prévu en Espagne, par exemple, pourquoi pas en France. C'est vrai que la crise en question, donc encore une fois, j'ai bien dit qu'elle n'était pas définitivement réglée, juste mise un peu de côté, elle peut se rappeler à nous, et à chaque fois qu'elle se rappellera à nous, si c'est un petit peu dur, ça fera chuter les marchés.
Alors, on voit bien les investisseurs chercher du rendement hein, dans ces périodes-là. Alors, sur les marchés obligataires, c'est quand même de plus en plus difficile. Comment, justement, sur ces marchés, investir? Quels actifs aller chercher? Est-ce qu'on peut encore aller investir sur ces marchés-là?
Alors, on peut encore, s'agissant des obligations, on pense que oui, on peut encore investir sur les obligations. On peut aller chercher des rendements attractifs du côté des pays émergents, par exemple, ou du côté des emprunts du secteur privé. Malgré tout, je vous rejoins, c'est vrai que, voilà, sur ces emprunts du secteur privé, il y a encore de l'argent à gagner, il y a en tout cas plus d'argent à gagner que sur des placements soit monétaires, soit les placements en emprunt d'État. Ça, c'est certain. En revanche, on est obligé de constater que les taux offerts par les entreprises qui émettent sur le marché sont de plus en plus bas. Donc, ça n'est pas, c'est de moins en moins intéressant, ou alors il faut prendre de plus en plus de risques pour avoir les mêmes rendements. Donc, ça, c'est un petit peu problématique. Donc, c'est vrai que de ce fait-là, la solution des actions s'impose en quelque sorte un petit peu à nous. Autrement dit, si on veut faire progresser un patrimoine, dans un contexte dans lequel les taux d'intérêt à court terme et à long terme sont très faibles, dans le contexte dans lequel on a aussi de l'inflation malgré tout, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions selon nous que d'investir sur les actions.
Ah, est-ce que justement cet argument peut porter? On a vu que du côté des actionnaires individuels en France, il y a un vrai déficit hein, depuis des années. Souvent, ces actionnaires-là arrivent un peu tard. Alors, des actionnaires un peu plus avertis peut-être auraient déjà mis une partie en actions et... On va dire, on pourrait mettre aussi l'argument de des crises à répétition où investir en actions, ça devient quand même un sacré métier.
Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est assez difficile, c'est une bonne chose malgré tout, paradoxalement. Enfin, c'est pas une boutade, mais c'est vrai que ça peut être une bonne chose paradoxalement de se dire que les investisseurs sont encore plutôt absents des marchés d'actions. Ça veut dire que voilà, il y a encore de la place pour que ces gens-là finalement venant au fur et à mesure que le marché monte, revenant sur les actions, ça peut aider un mouvement de hausse qui se constitue en ce moment. Je pense que par exemple, si on franchissait des seuils psychologiques importants sur le marché français, comme le seuil de 4000 points sur le CAC 40, par exemple, il y aurait certainement un appel, une accélération de la hausse, probablement.
Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter justement dans cette période-là? Quelles sont les erreurs à éviter? Est-ce qu'il y a effectivement une carte en quelque sorte à avoir avec soi pour éviter à nouveau d'investir trop tôt ou de mal investir?
Alors, les erreurs sont toujours à éviter, mais de manière générale, je vois aujourd'hui effectivement deux risques principaux. Le premier, c'est le piège du rendement. Le deuxième, c'est le piège des actions sur lesquelles on investirait sans tenir compte du risque qui est toujours présent. Du côté du rendement, c'est le fait que c'est pas parce qu'une action a un rendement élevé qu'il faut l'acheter nécessairement pour ce simple rendement. Beaucoup de gens sont à la recherche de rendement, mais le rendement, c'est aussi la traduction du fait que de temps en temps, le cours peut baisser énormément et qu'on maintient un peu artificiellement un dividende. Donc attention à ce miroir aux alouettes que peut être le rendement de temps en temps. Et deuxièmement, du côté du risque des actions, encore une fois, aujourd'hui, les actions s'imposent à nous comme un placement un petit peu unique si on veut valoriser un patrimoine. Ça n'est pas pour autant une disparition du risque lié aux actions. On a rappelé le risque politique en particulier, mais le risque macroéconomique ou sur les fondamentaux des entreprises, confère ce qui se passe sur Saipem par exemple aujourd'hui, est toujours là. Donc il faut bien avoir en tête qu'on est sur un placement action qui, de manière classique, comporte un risque.
Donc peut-être un peu plus de stock picking justement. Vous parliez de Saipem, c'est typique effectivement. Il faut éviter ce genre d'erreur dans un portefeuille.
Voilà. Alors c'est difficile d'éviter une erreur comme Saipem parce qu'effectivement on passe du jour au lendemain. Là aussi c'est un peu binaire du statut de star en quelque sorte du secteur au statut finalement de vilain canard. Donc c'est le changement a été ça s'est fait en deux étapes c'est vrai, mais le changement est particulièrement brutal. Donc ces pièges là ne sont pas faciles à éviter.
En conclusion, peut-être, il y a d'autres actifs à envisager dans cette période?
Alors là, j'ai parlé dans une optique de valorisation d'un patrimoine. Si on est dans une optique simplement de préservation du patrimoine et qu'on cherche juste à se dire sur les taux courts ou les taux à long terme des emprunts d'État, des pays cœurs, par exemple de la zone euro, je vais gagner zéro. Donc si j'enlève l'inflation et la fiscalité, je vais perdre de l'argent tout le temps. Il y a aussi une approche qui peut consister à essayer de contrebalancer l'impact de l'inflation et de la fiscalité, mais sur des placements moins risqués que les actions. Alors ça n'est pas facile, et là on regarde plutôt du côté de ces fonds de performance absolue ou de la gestion alternative.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Arnaud de Dumas. Rappel, vous êtes donc le directeur de la gestion de la banque Neuflize OBC.
Merci.